En les Bouddhas, Dharma et Sangha, jusqu'à l'éveil, j'entre en refuge, par les bienfaits des dons et vertus, que je m'éveille pour tous les vivants. Om Aum. Nous allons continuer la présentation du Vajrayana avec aujourd'hui ce que l'on nomme les trois sources ou les trois racines, Tsawasum en tibétain, qui sont la dimension intérieure du refuge. Donc, nous sommes familiers avec la notion d'entrée en refuge, qui est d'entrée en présence de l'éveil, d'entrée en présence de Bouddha, l'éveil, l'éveillé, Dharma, l'enseignement de réalité, la parole qu'exprime, qu'énonce le Bouddha, Sangha, ceux qui transmettent cet enseignement et ceux qui le suivent. Les trois joyaux, ainsi, constituent l'aspect extérieur du refuge. Il est aussi un aspect intérieur qui est constitué par les trois sources. Alors, on peut dire racine, on peut dire source. Il y a une qualité à dire source au sens où ces trois dimensions ou ces trois aspects que sont lama, yidam et protecteur, les trois sources, sont nommés ainsi car ils sont respectivement source de l'inspiration, lama, et source des bénédictions, de l'influence spirituelle, de l'inspiration. Le yidam, nous allons voir l'aspect du Bouddha, l'aspect symbolique de l'éveil qui est le support et la base de la pratique, et lui la source des accomplissements, la source de la réalisation, et les protecteurs, qui sont là aussi des aspects éveillés, des aspects du Bouddha, sont eux source de l'activité éveillée. Ils gouvernent et ils sont le canal, ceux qui mettent en œuvre ou la pratique qui met en œuvre l'activité éveillée. Donc, c'est la raison pour laquelle l'on parle de trois sources. Vajradhara Kalorimboche nous dit les refuges du Hinayana et du Mahayana sont les trois joyaux. Celui du Vajrayana comprend aussi les trois sources ou trois racines qui sont le lama, le yidam et le protecteur ou dharmapala en sanskrit. Le terme source ou racine se réfère au fait que le lama est la source de l'influence spirituelle, le yidam celle des accomplissements et le dharmapala celle de l'activité éveillée. Ce que nous disions à l'instant. Alors, le refuge, les refuges sont des dimensions de l'éveil ou des expressions de l'éveil. Expression extérieure, expression intérieure, et même, on peut distinguer une expression secrète et une expression fondamentale. Nous allons voir petit à petit. Mais entrer en refuge, c'est se tourner vers l'éveil, c'est entrer en sa présence et se placer ainsi dans une situation de confiance, d'ouverture, entrer en refuge et se placer dans la protection de l'éveil, dans son inspiration. Et c'est l'état ou la situation en laquelle on peut se détendre, s'abandonner, se laisser aller au-delà des résistances, au-delà des peurs. Donc, il y a dans l'entrée en refuge cette dimension d'ouverture, d'abandon, de sécurité. L'éveil est la bonté fondamentale. Donc, entrer en refuge et entrer dans cette bonté et accueillir cette bonté, se laisser aller en celle-ci. Il y a toutes ces dimensions dans la pratique du refuge. Et le point ici est d'entendre, de comprendre le refuge comme étant l'expression de l'éveil ou de différentes dimensions ou aspects de celui-ci. Dans le refuge intérieur, de développer maintenant, Vajradhara Kyanwa Rinpoche nous dit, le lama, donc le premier aspect des trois sources, le lama est celui qui nous guide et nous transmet progressivement les points essentiels des enseignements du Vajrayana. Donc, la notion de lama, de maître, ici est spécifique au Vajrayana, dans sa dimension pleine, qui dit, il est l'héritier de la lignée et détient l'influence spirituelle de ses pratiques. Donc, le maître, le lama, s'inscrit dans une lignée, dans une chaîne de transmission, il en est le dernier maillon, il en est le récipiendaire, il en est l'héritier. Il y a une filiation interpersonnelle, intergénérationnelle, et lui-même fut un disciple, il a lui-même reçu la transmission, il l'a pratiqué, il l'a réalisé, il a été reconnu par son propre maître comme étant apte à son tour à transmettre. C'est ainsi qu'il est l'héritier de la lignée. Et dans sa maturité, dans sa liberté, dans sa compréhension, dans son expérience, dans sa réalisation, il détient l'influence spirituelle et ses pratiques. Il accorde les habilitations initiation, ce que l'on nomme abhisheka en sanskrit. Alors, on peut dire initiation, on peut dire habilitation. L'initiation introduit à la pratique et habilite pour accomplir celle-ci. Donc, c'est à la fois une introduction et une habilitation. En tibétain, l'on dit wang. Wang a aussi le sens de pouvoir. En anglais, on pourrait dire c'est un empowerment, une habilitation au sens où elle donne le pouvoir, où elle donne la capacité de faire la pratique. Elle nous connecte avec la dimension éveillée de la pratique, elle nous consacre en celle-ci. Et c'est la consécration et le sens d'abhisheka aussi. Donc, ces différents sens dans habilitation, initiation, consécration, wang. La transmission est aussi ce que l'on nomme le lung, c'est la transmission scripturaire, qui est le texte, le support de la pratique et aussi les instructions, comment conduire la pratique, comment la mener dans ses différents aspects. Donc, la transmission du lama, la transmission du maître est Wan Lung Chi, initiation, transcription scripturaire et instruction. Ces habilitations, initiation, consécration font mûrir, nous amènent à maturité. Alors, maturité ici a le sens de révéler notre potentiel de Bouddha, d'actualiser notre potentiel de Bouddha, de l'amener à maturité, le faire mûrir. Il y a un mûrissement ainsi. Fait mûrir notre karma dans le sens de l'amener dans une bonne direction, l'amener dans l'éveiller, il éveille notre karma et les différents courants de notre être, les différents courants de notre conscience. On parle du courant du corps, du courant de la parole, du courant de l'esprit, de la conscience. Donc, bref, l'initiation ainsi a une capacité et un pouvoir de maturation, si l'on pouvait dire, ou en tout cas de mûrissement. Et ainsi que les transmissions des écrits, les lunes, et les instructions qui s'y rapportent. Les lunes, les transmissions scripturaires, étayent la transmission, la renforcent, étayent les enseignements et les instructions, révèlent le sens même de la pratique et de la transmission. Donc le lama est ainsi l'origine des différents aspects de la transmission et c'est ainsi qu'il en est la source et la racine de l'influence spirituelle. Ensuite vient le yidam. Yidam est le terme tibétain pour la divinité, la déité. Dans le contexte non théiste, qui est celui du Dharma, l'on entend par déité l'absolu, la nature de Bouddha, la nature absolue, la nature éveillée, omniprésente, et ainsi dans son absoluité, son omniprésence. Le yidam est l'expression de cette nature absolue dans une expression symbolique. La pratique du yidam est la base de ce que l'on nomme aussi la voie symbolique. Il y a plusieurs dimensions dans la pratique du yidam au fur et à mesure que l'on avance dans celle-ci. Le yidam est la déité ou l'aspect de la déité à laquelle notre esprit se voue. Alors, l'absolu, la déité absolue, en sa nature fondamentale est au-delà de tout nom et de tout concept et elle n'entre pas dans les catégories que le mental peut concevoir. Mais à notre niveau relatif, conceptuel, l'on en peut percevoir différents aspects. Donc, les yidam sont des aspects de la nature de Bouddha, suivant les trois dimensions, les trois corps, suivant les cinq familles, les cinq sagesses, les cinq dimensions de l'expérience éveillée. Donc, le yidam représente ou présente l'éveil ainsi dans un de ses aspects, et il est le moyen de pratique qui va être la source de la réalisation. C'est pour ça que l'on parle du Yidam comme la source d'accomplissement ou la source de réalisation. Et il y a ainsi de nombreux Yidam, et notre esprit se voue ou se consacre à l'un d'eux en fonction de notre réceptivité, notre mentalité, de nos aspirations, avec la déité finalement avec laquelle on se sent, l'aspect de la déité avec laquelle on se sent le plus en harmonie ou en affinité, et par là même auquel on peut plus facilement se dédier, se consacrer. Et il y a ensuite dans la pratique une rencontre, une entrée dans la présence de la déité, entrer en la présence du Yidam qui petit à petit vit en nous et en la présence duquel l'on vit. C'est d'ailleurs le deuxième sens de Yidam, qui est la déité à laquelle notre esprit est lié ou en présence de laquelle l'on vit, jusqu'à la dimension la plus profonde du Yidam, qui est la déité de notre esprit, c'est-à-dire la nature pure de notre propre esprit est Yidam au moment de la réalisation. Donc, il y a tous ces sens dans le mot Yidam qui sont aussi les étapes de la pratique et de la réalisation. Vajradhara Kalu nous dit les différentes divinités, déités de l'esprit, Yidam en tibétain, sont des aspects du Bouddha qui a pour nature propre les trois corps de l'éveil et les cinq intelligences primordiales. Avec l'intelligence du mandala, des différentes familles, qui donne la multiplicité des aspects des Yidam. Une image que l'on utilise certaines fois dit que la nature du Yidam est la claire lumière. Mais alors on pourrait, dans une analogie, comparer cette claire lumière à la lumière naturelle, la lumière du soleil. C'est une analogie. La claire lumière, dans sa nature, échappe à, et transcende tout nom, toute forme et tout ce qui peut être conçu. Mais cette claire lumière, dans l'image, est comme la lumière du soleil qui, lorsqu'elle passe dans un prisme, est diffractée en un spectre lumineux, de l'infrarouge à l'ultraviolet, et la lumière blanche devient bleu, vert, jaune, rouge. Et cette luminosité quinticolore est les cinq dimensions du mandala, qui sont aussi les cinq tonalités ou les cinq couleurs que les expressions de la déité sont susceptibles de prendre. Non, c'est une façon de dire que, au-delà de leur particularité, de leur couleur spécifique, tous les Yidam ont la même nature, qui est claire lumière. Dans sa compassion, le Bouddha manifeste les différents aspects des Yidam, où la nature éveillée, claire lumière, se manifeste comme les différents aspects des Yidam, Chacun d'eux étant littéralement, suivant le sens même du terme, la divinité ou déité à laquelle notre esprit se voue. C'est le premier sens. Ils sont ainsi appelés car un pratiquant tient l'un d'eux pour sa déité personnelle, sa divinité d'élection, et se consacre à sa pratique. Cette pratique qui est constituée des deux phases de méditation, dites phase de génération et phase de perfection. Dans la phase de génération, il y a la présence de la déité qui est évoquée avec un nom et une forme, avec un mantra et une apparence symbolique, iconographique. Donc, il y a une forme de, on peut dire, de coagulation ou de formalisation de ce qui échappe au nom et aux formes, mais qui permet d'amener cette présence éveillée en notre esprit, en notre expérience, avec une forme et un son qui sont le support et la base de la pratique, une familiarisation, d'une intégration. Puis la phase de perfection, elle dissout nom et forme, dissout le symbole, laissant simplement sa nature qui est en l'état naturel, au-delà des conceptions, noms et formes. Ces deux phases sont complémentaires et sont nécessaires à la pratique d'un yidam. La première constitue l'introduction, et elle est conceptuelle, et elle a un pouvoir de purification et de transformation de notre mental habituel. Et la deuxième, qui est ultime, évite qu'il y ait des déviations théistes ou que l'on reste attaché à des noms et des formes. La première est relative, la deuxième est absolue. De leur pratique, de la pratique des yidam et de leurs deux phases de méditation, viennent la réalisation de la nature de l'esprit et tous les accomplissements. Aussi, les yidam sont-ils la source ou la racine des accomplissements. Puis, le Dharmapala, ou les Dharmapala, protecteur du Dharma. Le protecteur est aussi comme le Yidam, une expression de la nature de Bouddha, mais d'une façon plus particulière, qui est dynamique, énergétique, et qui exprime la force, qui est l'expression de la force de l'éveil, de son énergie, qui, dans la pratique que l'on accomplit avec le protecteur, cette force, énergie de l'éveil est une protection. C'est ainsi que l'on parle de protecteur de l'expérience première, le Yeshe Genpo, le Seigneur protecteur de gnose. Le Dharmapala, ainsi, protège l'éveil, nous protège des illusions, des passions, et ainsi il protège la présence de l'éveil en laquelle s'accomplissent spontanément les différentes activités éveillées. C'est ainsi que le protecteur est la source d'activité éveillée. Vajradhara Kalohimboche nous dit que les dharmapalas sont aussi la manifestation d'aspects éveillés de l'esprit apparaissant pour porter assistance aux pratiquants dans l'accomplissement des quatre types d'activités éveillées. Ces quatre types d'activités éveillées étant la pacification, l'accroissement, la puissance et la destruction. Dans une situation, il y a toujours ces quatre niveaux d'activité, mais qui ici sont celles de l'activité éveillée, de l'activité pure, de l'activité de Bouddha. Il y a d'abord l'apaisement, la pacification. Puis, deuxièmement, il y a l'enrichissement de la situation, l'apport de nouveaux éléments, son développement. Puis, il y a le pouvoir ou l'énergie qui peut être mise dans cette situation. Et finalement, si les trois premières formes d'activité n'ont pas été opérantes, la dernière est celle qui arrête, qui stoppe. Donc, c'est ce que l'on nomme aussi la destruction. Donc, Dharmapala, les protecteurs, sont la source ou la racine de l'activité éveillée, activité éveillée qui se déploie au niveau pur, au-delà des causes et des conséquences du karma. Ensuite, il y a les présentations des refuges extérieurs, intérieurs et absolus. Les trois sources constituent le refuge intérieur. Leur sens est extrêmement profond, il ne nous est pas possible de le comprendre complètement d'emblée. Mais il s'éclaire progressivement avec l'étude et la pratique. Nous pourrions nous demander, si nous sommes intrinsèquement Bouddha, pourquoi avons-nous besoin d'un refuge qui semble extérieur? Et même, peut-il y avoir un refuge extérieur? Pour répondre, prenons un exemple. Le premier ministre d'un pays. A priori, il semble quelqu'un d'ordinaire et nous pourrions nous demander d'où lui viennent les qualités qui lui permettent de gouverner. La réponse se trouve dans ses connaissances et son expérience. Si nous nous réveillions un matin pour devenir dirigeant d'un pays, nous ne saurions comment faire ni par où commencer. Pourtant, si nous recevions la formation nécessaire, nous serions parfaitement capables d'accomplir ce travail. Si un dirigeant nous prenait en charge et nous faisait passer par toutes les étapes préparatoires nécessaires, nous pourrions finalement devenir son égal. De façon similaire, nous avons intrinsèquement la même nature que le Bouddha, mais nous l'ignorons et ses qualités ne sont pas révélées en nous. Pour les actualiser ses qualités, enlever les voiles qui nous les masquent, il est nécessaire que nous nous tournions vers le Bouddha déjà arrivé à la perfection, afin qu'il nous guide et nous aide. C'est en nous en remettant au Bouddha que celui-ci peut nous guider et nous aider dans l'actualisation et la révélation de ses qualités. Au départ, quand nous nous tournons vers le Bouddha, il semble être à l'extérieur de nous. Au départ, l'éveil semble être à l'extérieur de nous. Il en est de même quand nous recevons un enseignement de notre lama. Aussi longtemps que nous sommes aveuglés par l'illusion d'un moi et d'un autre, il est nécessaire et utile de prendre ainsi refuge, de pouvoir s'en remettre à ce qui nous semble, même si c'est illusoirement, extérieur. Pourtant, il ne faut pas oublier que l'esprit de tous les vivants et celui du Bouddha ne sont fondamentalement pas différents. Notre esprit est aujourd'hui comme un élève avant que le professeur ne lui ait communiqué son savoir. Une fois qu'il se sera pleinement éveillé à la connaissance, il sera identique à celui du Bouddha. Les enseignements peuvent nous aider à nous éveiller parce que nous avons déjà la nature de Bouddha. La nature de Bouddha n'est pas quelque chose que l'on fabrique, elle est déjà là et les enseignements nous la révèlent, nous permettent de la réaliser. Si nous ne l'avions pas, essayer de purifier l'esprit serait comme tenter de nettoyer un morceau de charbon. Nous aurions beau le laver encore et encore, il resterait toujours noir. Par contre, dévoiler l'esprit est comme nettoyer un objet. La saleté enlevée, sa nature se révèle. Alors, là, c'est comme le diamant. La nature de Bouddha serait comme un diamant qui peut être enveloppé dans une gangue ou dans de la terre, mais en lavant la gangue, celle-ci s'en va et le diamant se révèle dans sa nature transparente et lumineuse. Le diamant est la nature de Bouddha. Il a toujours été là, mais invisible, car voilé par une gangue. Ou, pareillement, si l'on prend l'exemple de l'or, l'or est lors de l'éveil et caché par la gangue. Si nous savons dissoudre la gangue, dévoiler, l'or se révèle dans sa pureté. Lorsque vous méditez sur les trois sources en général ou sur votre yidam en particulier, vous pouvez donc au début de la pratique, le percevoir comme extérieur. C'est ainsi que les voiles commenceront à se dissiper. Des percées dans l'écran des nuages laisseront d'abord filtrer des rayons de soleil. L'influence spirituelle du Yidam vous éclairera et vous réaliserez finalement que lui et votre esprit n'êtes pas différents. Vous réaliserez alors les trois corps de l'éveil d'un Bouddha qui sont le refuge absolu. Dans le refuge extérieur, les trois joyaux, Bouddha, Dharma, Sangha, le refuge intérieur, Lama, Yidam, protecteur, le refuge fondamental ou absolu, la nature de Bouddha, Trikaya, Dharmakaya, Sambhogakaya, Nirmanakaya. Dans certains cas aussi, on parlera du refuge secret qui est la personne du maître, la personne du lama, qui résume en sa personne les différentes dimensions des différents refuges. Son esprit est Bouddha, sa parole est Dharma, son corps est Sangha. Son esprit est Yidam, sa parole est Dharmapala, son corps est Lama lui-même, et aussi son esprit est Dharmakaya, sa parole Sambhogakaya, son corps Nirmanakaya, et il résume ainsi en sa personne tous les différents aspects du refuge. Dieu vous propose à ce point un moment de méditation et d'intégration du refuge en général et du refuge intérieur en particulier, les trois sources. Toute vertu ainsi pratiquée est sans aucune appropriation dédiée au bien de tous les vivants en la réalité absolue.